Vous avez peut-être vu comme moi le film sorti il y a quelques années sous le titre Hacksaw Ridge. Un film qui relate l'histoire du soldat américain Desmond Doss, décoré à la fin de la Deuxième Guerre mondiale par les autorités militaires pour sa bravoure et pour les nombreuses vies sauvées sur le champ de bataille. Desmond Doss n'a jamais porté d'armes ni tiré une seule balle. La conscience de ce chrétien adventiste le lui interdisait. Et il se référait à une courte parole extraite du Décalogue : « Tu ne tueras point ». Bonjour à tous, bienvenue dans Il est écrit pour parler aujourd'hui ensemble donc de cette sixième parole, une parole très courte, deux mots en hébreu, quatre en français, tu ne tueras point. Probablement l'un des commandements de Dieu les plus connus, mais aussi les plus mal vécus sur notre planète. Pour en parler aujourd'hui, je retrouve mes amis. Bonjour Ngoy.
Bonjour Rémi.
Bienvenue France.
Merci.
Bienvenue Patrick.
Bonjour Rémi.
Tu ne tueras point. Qu'est-ce que ça veut dire, Ngoy? Parce qu'il y a des traductions un peu différentes. Certains posent la question, par exemple, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas tuer une mouche, on ne peut pas tuer un animal, on peut... Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Ici, nous pouvons traduire le verbe hébraïque en français par « tu ne commettras point d'assassinat ou de meurtre ». D'ailleurs, le verbe ici n'est pas utilisé pour Dieu, pour qualifier les actes de Dieu, mais c'est plutôt à l'homme que... s'est adressé ce message qui lui interdit de porter atteinte à la vie d'un être humain.
Donc il s'agit ici de dire « tu ne commettras pas d'homicide ».
Exact. En fait, il ne faut pas commettre d'homicide direct ou indirect, sous quelque forme que ce soit. Ça peut être tuer quelqu'un physiquement ou psychologiquement ou moralement. Donc, c'est beaucoup plus précis. Et Dieu est exclu de ce vocabulaire parce que Dieu donne vie.
Donc, lui a le droit sur la vie.
Il a droit sur la vie, il donne la vie. Et lorsqu'on est loin de Dieu, on n'a pas la vie. Mais par contre, ici, c'est pour gérer nos relations entre humains. Et la vie, elle devient quelque chose de sacré que Dieu veut protéger et qu'il veut exclure à la colère de l'être humain.
Est-ce qu'on peut, ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est-à-dire que Dieu, lui, est exclu de cela, est-ce que ça explique le fait que, par exemple, dans certains cas, Dieu va lui-même instituer la peine de mort ou va permettre la destruction d'un certain nombre d'êtres humains?
Oui. Et d'ailleurs, lorsqu'il s'agit de la peine de mort ou lorsqu'on se protège contre un ennemi qui nous attaque, ce n'est pas le même verbe qui est utilisé ici. Là, nous sommes dans une situation où Dieu permet, Dieu donne une possibilité que cela puisse exister. Mais alors qu'ici, c'est beaucoup plus précis.
C'est le meurtre... sous toutes ses formes.
Oui, c'est le maître que nous avons conçu, développé, décidé de faire pour minimiser ou bien nous approprier la vie d'un être humain, pour que nous en fassions ce que nous voulons.
Derrière cette parole, il y a donc cette idée que Dieu est celui qui donne la vie, il en est le propriétaire, et ce n'est pas l'être humain qui en est le propriétaire. Je me trouve, tourne à toi Patrick, parce que dans la pensée moderne, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible.
En fait, si on choisit d'être chrétien et on veut adhérer aux principes que Dieu nous donne dans la Bible, ben un des principes qu'on doit dégager ou extraire, si on veut, de ce commandement, c'est la question de la sacralité de la vie, donc de la valorisation que Dieu donne à la vie de l'être humain. Et c'est pas rien, bibliquement parlant, on parle de Dieu comme étant le créateur, donc l'instigateur de la vie de l'être humain.
Et puis, il a créé l'être humain à son image.
Exactement. Donc là, il y a toute la question des rapports que nous avons les uns avec les autres et Dieu qui nous demande de considérer la vie de notre prochain. Donc, dans la mesure du possible, on a une responsabilité chrétienne ou même un devoir de protéger, de veiller, d'améliorer, de répondre aux besoins même d'autrui. Et Jésus, dans ses nombreuses paraboles, a donné énormément de valeur à la vie de l'être humain, entre autres parce que Dieu l'a donné, mais aussi parce que lui-même a donné sa propre vie pour la vie de l'être humain.
Et ça, ça montre effectivement la valeur infinie de l'être humain aux yeux de Dieu. Mm-hmm. Maintenant, d'une manière très concrète, quand on dit « tu ne tueras point », on pense forcément à certaines choses qui sont vécues. Bon, il y a le meurtre. Hein. Il y a quand même au Canada un peu plus de 600 meurtres par an, ce qui est peu par rapport à d'autres pays, dont certains qui sont un peu plus au sud que le nôtre. Et puis, ça semble évident. Hein. Je disais tout à l'heure, le meurtre, c'est évident à peu près pour tout le monde, puis c'est ce que dit le texte. Mais par exemple, en tant que chrétien, et face à cette sixième parole, comment est-ce qu'on se situe par rapport à des choses comme la guerre, la participation du chrétien à la guerre? Qu'est-ce que ça nous dit, France?
C'est sûr que c'est quelque chose. Quelqu'un qui est confronté à cette situation-là de devoir partir en guerre, c'est un choix d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On peut avoir un commandement d'aller à la guerre, mais qui ont choisi d'obéir? Hein?
Qu'est-ce qui ferait, par exemple, France, que si on te demandait à toi d'aller à la guerre, tu ne pourrais pas y aller?
Moi, c'est sûr que... déjà, l'acte de tuer, c'est énorme. Je vais vous faire rire, là, mais on a des petits poulets à la maison. Puis quand il faut en éliminer un, même mon mari a du mal. On dirait que c'est contre nature. Hein? Dieu a donné la vie. Il veut qu'on prolonge la vie, qu'on garde la vie. Et on donne la vie. Hein? On met des enfants au monde. C'est comme contre nature d'enlever la vie. Donc, je pense que c'est la conscience.
Si dans ce monde, malheureusement, les guerres sont quasiment inévitables, en tant que chrétien, on est appelé à vivre autre chose, à porter autre chose comme message au monde.
Ouais,
c'est un peu ça
que
tu es en train de nous dire.
Oui, puis je pense un petit peu au film. Je ne sais pas, il y en a qui l'ont peut-être vu.
Oui, on l'a mentionné en introduction.
On a fait une émission là-dessus. C'est un soldat qui a décidé, lui, il est allé à la guerre, mais pour lui, il n'était pas question qu'il tue. Mais finalement, il sauvait les blessés, il allait les chercher sur le front. Puis à la fin, les soldats ne voulaient plus aller au front s'il n'était pas là. Parce que lui, il préservait la vie des soldats, il les guérissait. Puis il y avait un contrepoids dans la guerre. Là. Ça a beaucoup fait un gros impact, en fait.
On va prendre un autre exemple. Où là aussi on est confronté à cette sixième parole, on va prendre l'exemple très contemporain du suicide.
Oui.
Qu'est-ce que ça nous dit cette parole par rapport au suicide?
Oui, mais c'est un sujet délicat.
Absolument.
Parce que lorsque nous parlons du suicide, il vient à notre esprit le jugement. Pourquoi est-ce qu'il a fait ceci? Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Et même à distance, nous ne vivons pas ce que la personne qui commet le suicide, nous ne savons pas ses émotions, qu'est-ce qu'il a comme problème. Mais je dirais que d'abord, il faut laisser les jugements de côté. Et deuxièmement, je dirais que si je reste dans le texte, il y a le respect de la vie que Dieu a donnée, comme Patrick l'a dit, ce qui est un don précieux. Et d'une façon ou d'une autre, la vie que j'ai, quelle que soit la peine dans laquelle je me trouve, elle vaut la peine d'être vécue. Et parfois, je la réduis tout simplement à la souffrance. Alors que la vie, elle est une composante où il y a de la souffrance, mais où il y a aussi de la joie.
Mais quand quelqu'un est profondément déprimé, il ne voit plus ça, que la souffrance.
Et je dirais que ce suicide-là, c'est en quelque sorte... C'est comme s'il y avait un échec de cette vie-là qui est en nous. Parce qu'au lieu qu'elle soit épanouissante, qu'elle puisse nous montrer des aspects qui sont positifs, l'être humain se focalise à un moment précis à des difficultés qui montrent que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est un moment que nous ne pouvons pas juger en tant qu'être humain. La seule chose que nous pouvons apporter, c'est tout simplement faire en sorte que les gens ne soient pas dans l'isolement qui puisse permettre à une perte de la signification de la vie ou du sens de la vie et son importance.
Ici, je pense à quelque chose que j'ai vécu personnellement avec quelqu'un que j'accompagnais. C'est une personne qui a vécu justement un moment, une grosse crise dans sa vie. Vous savez, ces moments où tout est noir, tout est sombre, il n'y a que des nuages. Et à plusieurs reprises, il me disait, tu sais, à plusieurs reprises, j'ai vraiment pensé à m'ôter la vie. Il me dit, ça ne vaut plus la peine. Mais c'est intéressant, il m'a dit, tu sais, comme moi, je suis croyant, et je me suis référé à la Bible, il restait cette idée que non, Dieu ne veut pas que tu fasses ça. Il me dit, tu sais, aujourd'hui, je suis reconnaissant pour ce commandement de Dieu parce que ça m'a sauvé la vie. Si je n'avais pas eu ça, je ne serais plus là depuis longtemps. Mmh. Je savais comment faire pour ne pas me rater. Mais ça m'a retenu. Et aujourd'hui, je suis heureux de vivre.
Oui. Wow.
Donc, c'est comme un peu aussi un garde-fou
que
Dieu met là. Quand il dit, tu ne tueras point, n'ôte pas la vie. Je pense à un homme comme Job. S'il y en a un qui voulait mourir... Quand on lit son histoire,
il y avait toutes les raisons.
Lui, il voulait mourir. Mais il n'a jamais attenté à sa vie. Et il ne l'a jamais fait parce qu'au fond, il disait, je ne comprends rien, mais je m'approche à toi. Et finalement, Job a vécu et a vécu des choses fantastiques au-delà de cette souffrance.
Mais on a un rôle en tant que chrétien important auprès de ces personnes-là. Parce que, justement, cette semaine, j'ai parlé avec une jeune fille qui est vraiment dans une période de nuages. Et je lui ai parlé de tout ce que Dieu peut faire pour changer sa vie. Puis, on a fait des lectures et tout ça. Puis, quand elle est partie, elle m'a dit, « Hey, je suis en train de voir une perspective que j'avais jamais vue. » J'ai dit, « C'est comme si tu passes des ténèbres à la lumière. Tu vas découvrir qu'avec Dieu, il peut tout refaire ta vie. »
Mais tu poses une question par rapport au suicide. On est dans une émission qui est chrétienne. Nécessairement, on se réfère au récit biblique. Mm-hmm. Donc, la posture de tes invités, c'est une posture qui est chrétienne.
Absolument. Mm-hmm.
Alors, moi, je vais répondre d'un point de vue personnel. En ce qui me concerne, moi, personnellement, Patrick Dupuis, je ne considère pas le suicide comme étant une option viable à une souffrance quelconque. Pour moi. Mm-hmm. Mais je choisis également, en tant que chrétien, de ne pas porter de jugement sur d'autres qui vont faire ce choix-là. Alors,
on l'a dit en préalable, absolument.
Pourquoi? Ouais, parce que je crois que fondamentalement, un des plus beaux cadeaux que Dieu a donné à l'humanité, c'est la capacité de choisir. Maintenant, ma compréhension de la lecture biblique que je fais, c'est que Dieu veut que je vive et Dieu veut que malgré la souffrance, les défis, les obstacles et les épreuves de ma vie, que j'arrive aussi à être joyeux et à être heureux. Maintenant, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de ressources à notre disposition, autant des ressources chrétiennes qui peuvent être aidantes que des ressources dans le milieu de la santé pour accompagner quelqu'un qui a des idées suicidaires, que ce soit consultation en psychiatrie, certains médicaments qui ont démontré être efficaces dans des épisodes psychotiques et autres. Je pense qu'on a des ressources en société et au sein du christianisme, qui peuvent être aidants pour quelqu'un qui ne voit pas d'autre issue que de s'enlever la vie.
Et peut-être ce que tu dis là peut aussi s'appliquer d'une certaine manière, jusqu'à un certain point, à ce choix aujourd'hui qu'on nous propose de mettre fin à notre vie d'une manière assistée. Alors là, ce serait tout un débat, on ne va pas rentrer là-dedans, mais toi, Patrick, tu vis ça en milieu médical. Quelqu'un qui a décidé de mettre fin à sa vie, qui a demandé l'aide médicale à mourir, comment est-ce qu'on peut l'accompagner? Comment est-ce qu'on peut, en même temps, lui parler de Dieu, comme ça t'arrive de le faire?
Ben, en fait, l'idée, premièrement, au niveau du travail qui se fait en santé, le prosélytisme est quelque chose qui est proscrit, indépendamment de la profession. Qu'on parle d'un fantassin qui choisit de porter les armes pour une armée qui représente une nation quelconque, qu'on parle du suicide, qu'on parle de l'aide médicale à mourir ou qu'on parle de l'avortement, il faut vraiment faire la distinction entre celui qui choisit de vivre sa vie dans une perspective chrétienne et donc d'adhérer aux enseignements bibliques ou quelqu'un qui choisit de vivre sa vie autrement.
En fonction de ses critères personnels.
Exactement. Et donc, le chrétien est appelé à fonctionner en société. Et aujourd'hui, On a des gens autour de nous qui choisissent de s'enlever la vie. D'autres choisissent d'avoir recours à l'aide médicale à mourir pour un problème de santé quelconque et ils rencontrent les critères. D'autres choisissent l'avortement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que moyen de mieux vivre ces situations-là à la lumière des principes bibliques. Est-ce que je suis contre la guerre? Bien, je suis pacifiste en tant que chrétien, mais je comprends qu'à un certain moment donné, il y a des nations qui ont besoin d'intervenir sur d'autres nations quand il y a des dictatures, de la corruption, de la tyrannie, des génocides et autres. Mais si moi, j'étais obligé d'aller en guerre, bien, je choisirais probablement d'être un aumônier ou d'être un médic ou du moins d'user de mon objection de conscience et de dire, bien, moi, je suis prêt à aider mon pays.
Mais différemment.
À être patriotique et saluer le drapeau de la nation qui m'a donné toutes ces libertés, mais je ne veux pas porter d'armes parce que j'ai une conviction religieuse où je ne veux pas commettre un meurtre quelconque, même si, bon, il y a des conventions au niveau des guerres et tout, et tout, et tout. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question.
Non, mais ce que je comprends que tu veux dire, c'est qu'en fait, c'est la perspective d'un croyant et d'un chrétien qui change toute la donne, qui fait toute la différence.
Ouais.
Et là, je vous propose que peut-être on aille au plus profond de tout ça, en allant voir ce que Jésus a vécu et ce que Jésus a dit, parce qu'il reste notre référence suprême. Et Jésus a commenté la sixième parole.
Ouais.
Il l'a fait dans son sermon sur la montagne, qui nous est rapporté, entre autres, par l'évangéliste Matthieu. Et on va lire ensemble quelques versets dans Matthieu, chapitre 5. Je lis au verset 21. « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère « raca », c'est-à-dire « imbécile », sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira « insensé » sera passible de la géhenne du feu. » Alors, Jésus, il va beaucoup plus loin que simplement le fait de tuer.
Ouais.
Et là, quand je lis ce texte-là, je me rends compte que j'ai déjà tué.
Oui. Et en fait, Jésus, il va beaucoup plus loin parce qu'il va à la racine même de nos actes. La motivation de nos actes, pour avoir vécu quelques guerres au Congo, pour avoir vécu la situation au Rwanda, je peux sentir et peser les conséquences de tuer. Et ici, Jésus ne veut pas tout simplement résoudre le problème en faisant des déclarations. Il veut qu'on aille dans un aspect où nous privilégions la vie coûte que coûte. Donc, il faut sauver la vie, non seulement ne pas nous l'enlever, mais privilégier l'épanouissement de la vie. Et c'est pour cela qu'il dit, il donne des absolus qui peuvent être difficiles pour nous, mais Jésus insiste sur le respect de la vie parce que même dans notre façon de parler aux autres,
nous
commettons des meurtres.
Absolument.
Et nous sommes tous coupables. Il y a ceux qui ont tué avec des armes, mais il y a aussi nos paroles. Parce que lorsqu'il dit, si tu te mets en colère, mais qui de nous ne s'est pas mis en colère?
Tu t'emportes, les mots, parfois on dit les mots dépassent la pensée, mais ils sont sortis.
Oui, parce qu'à ce moment-là, le meurtre devient tout simplement la conséquence de ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. Et à chaque fois que je pense que l'autre, je peux le réduire à rien ou l'éliminer, je suis déjà dans le processus de commettre le meurtre.
Je sais que France, ça, c'est quelque chose qui te touche beaucoup.
Oui, puis même... J'étais en train de me dire souvent quand les gens disent « Oh, moi, je ne suis pas méchant, je n'ai jamais tué personne. » Tu sais, les gens, des fois, on n'est pas toujours conscient de notre nature pécheresse et mauvaise. Mais quand on réalise ça, qu'on peut tuer avec un regard, avec une attitude, juste ignorer quelqu'un volontairement, ça peut le blesser. Et l'accumulation de ces blessures-là, la parole d'une personne, le regard d'une autre personne, le comportement peut-être des parents pendant toute la vie de cette personne, l'accumulation de tout ça tue directement.
Ce que tu viens de dire, France, c'est que finalement, Jésus ne regarde pas simplement à l'extérieur, à la violence exprimée par des gestes physiques. Il regarde en fait aux mobiles les plus profonds. Et ce que Dieu veut transformer, ce sont nos mobiles. Mettre en nous cet amour profond, ce respect profond de l'autre, qui va nous amener à ne pas l'agresser, que ce soit de manière physique, verbale ou autre. Mm-hmm. On revient toujours à l'amour, finalement. Le cœur des 10 paroles, c'est l'amour.
C'est ça.
Et à ça, on peut ajouter l'amour de la vie que Dieu nous a donnée. Et donc, je crois que Dieu, en tant que chrétien, nous appelle à promouvoir la vie de l'être humain autour de nous, à la protéger autant que possible, à chercher à l'améliorer. Je pense que ça fait partie des devoirs et des responsabilités que Dieu donne aux chrétiens.
Ngoï, c'est possible, d'après Jésus, c'est possible de ne plus avoir de haine, de ne plus avoir de colère, de plus agresser l'autre?
C'est le défi. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Je ne veux pas me faire d'illusions. Mais si je me mets dans l'orientation de ce que la vie est un don qui vient de Dieu et que je me fais ce devoir-là de le suivre, donc de suivre Jésus, je vais lui laisser aussi la possibilité de me transformer pour que je respecte d'abord ma vie et ensuite je respecte la vie de ceux qui sont autour de moi sans la détruire d'une façon ou d'une autre.
C'est un choix personnel, mais dans lequel on a besoin de la puissance de Dieu.
En fait, c'est un choix personnel, j'allais dire quotidien. Parce que c'est au jour qu'on est en colère, qu'on est contrarié. Et Dieu nous aide à gérer nos émotions négatives qui peuvent nous conduire à poser des actes qui sont à l'encontre de ce commandement, de cet ordre que Dieu nous donne.
Mmh. Alors, France, en terminant, est-ce que tu voudrais prier avec nous pour que Dieu mette dans nos cœurs
avec plaisir,
ces motivations qui viennent de lui?
D'accord. Bon Père du ciel, on tient à te remercier d'abord et avant tout pour ces 10 paroles que tu nous as données. Et on voit par la parole d'aujourd'hui, tu ne tueras point, à quel point tu veux changer nos cœurs, tu veux travailler profondément en nous. Alors, notre souhait, Seigneur, c'est que tu agisses dans nos cœurs, les nôtres, ceux de nos auditeurs, que l'on puisse s'ouvrir à toi pleinement, que ton esprit nous adoucisse, nous remplisse d'amour, que l'on puisse être des collaborateurs avec toi pour promouvoir la vie et maintenir la vie. C'est notre prière au nom de Jésus.
Amen. Amen.
Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume, chapitre 143, verset 8.
France, on se retrouve pour présenter notre offre de la semaine. Mm-hmm. Et tu as entre les mains un petit livre qui n'est pas directement sur le sujet du décalogue, tu ne tueras point, mais qui l'aborde quand même à travers l'enseignement de Jésus.
Oui, puis ça fait un petit lien avec ce qu'on a dit un petit peu vers la fin de l'émission, quand on parle vraiment du revers, qui est la profondeur de la loi, l'amour, l'esprit d'amour qui nous conduit. Donc, le livre s'intitule « Les Béatitudes ». C'est un commentaire sur le sermon sur la montagne. Donc, on retrouve à l'intérieur de ce petit livre d'à peu près 200 pages plusieurs extraits du sermon de Jésus et un commentaire pour expliquer chaque petite phrase. Donc, ça commence par, bien sûr, les béatitudes.
Heureux ceux qui
qu'on connaît
ça.
Bien. Mais il y a un chapitre, en fait, que j'aime beaucoup, puis je pense que tu l'aimes bien toi aussi, la spiritualité de la loi. Donc, on a la loi écrite, mais tout ce qu'il y a derrière. Puis, on a un chapitre aussi, c'est le vrai mobile de la vie chrétienne. Donc, c'est tous des petits extraits du sermon de Jésus avec des commentaires pour bien comprendre la profondeur de ce qu'il a voulu nous enseigner.
Et justement, dans le sermon sur la montagne, on le disait dans l'émission, Jésus a commenté les commandements de Dieu, plusieurs, dont tu ne tueras point et d'autres.
Oui.
Et il en a montré justement la richesse et le sens profond.
Oui, c'est un beau livre qui fait beaucoup de bien, honnêtement. Ça change toute notre perspective de la loi de Dieu. Donc, on l'offre à 25 $. Les frais de port sont inclus. C'est un petit livre qui vient d'Europe, donc ça explique un petit peu le prix un petit peu plus dispendieux, mais on inclut les frais de port.
Et ça vaut la peine?
Oui, toujours.
Tout ce qu'on propose, ça vaut toujours la peine.
Ben oui, c'est sûr.
Voilà, puis aujourd'hui, on veut aussi répondre à une question d'un auditeur. Je sais que souvent, on a des gens qui nous disent « Ah, répondez régulièrement à des questions, on aime ça ».
Oui, oui, on a dit « Bon, ben on répond à une question aujourd'hui ». En fait, ça vient de Bruno. Il nous a écrit via notre Facebook. Alors, il demande « Ai-je le droit de faire un don d'organes ?» Donc, dans la perspective biblique, Ai-je le droit
de faire un don d'organe? Bon, ouais. Déjà, ai-je le droit? on pourrait réagir juste sur cette partie-là, puisque je pense que Dieu nous donne le droit et la liberté. Mais je pense que ce qu'il veut surtout dire, Bruno, c'est je voudrais faire la volonté de Dieu. Ouais, est-ce que c'est en accord avec sa volonté ou pas? Don d'organe. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas de réponse directe à cette question-là dans la Bible, puisque le don d'organe, c'est une question qui ne se posait pas à l'époque.
C'est vrai.
Ce qu'on peut quand même dire à Bruno, c'est que le principe biblique, c'est de se donner pour les autres. Ouais. Jésus est le modèle par excellence, il s'est donné pour nous.
Il a donné sa vie. Hein.
Donner sa vie, je pense à ce texte de l'Évangile de Jean, chapitre 15, où Jésus va dire « Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
» Ouais.
Et bien sûr, en disant ça, il parlait de lui-même, mais il parle à chacun d'entre nous. Donc, dans la mesure où, quand on est mort et on comprend d'un point de vue biblique, notre corps va aller dans la poussière, il n'y a plus rien à espérer de ce corps-là. Si ça peut être utile à quelqu'un pour pouvoir continuer à vivre, pourquoi pas? Il n'y a rien dans la Bible, il ne me semble pas en tout cas, à moins que quelqu'un ne m'éclaire là-dessus, il n'y a rien dans la Bible qui nous empêche de le faire. Et le don de soi pour les autres, par contre, est clairement encouragé dans la parole de Dieu. Je ne sais pas comment tu vois les choses, France.
Aussi, moi, le verset qui me vient dans l'esprit, c'est « La vie est dans le sang », c'est dans Lévitique. Donc, quand on fait un don de sang aussi, on maintient la vie, on sauve des vies. Donc, moi aussi, je pense que tant qu'on collabore à promouvoir la vie, allons-y.
C'est quelque chose, en tout cas...
C'est un choix, comme tu disais. C'est un choix
Ça reste du domaine de la conscience personnelle.
C'est ça, c'est ça.
Bruno nous pose cette question, c'est sa conscience avec Dieu, mais on peut lui dire, il n'y a rien, en tout cas, selon la Bible, qui nous empêcherait de faire cet acte-là pour le bien et pour la vie d'un autre. Voilà, en deux mots, la réponse à la question de Bruno. Et tu nous rappelles donc l'offre de la semaine.
Oui, c'est les Béatitudes à 25 $, frais de port inclus.
Merci, France.
Bienvenue.
Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestecrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal.
C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Notre série sur le décalogue, elle, continue. Alors, soyez attentifs dans les prochaines semaines. Notre émission sur la 7e parole, « Tu ne commettras point d'adultère ». En attendant de nous retrouver, je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous rappelle, comme chaque semaine, qu'il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».